Et non, Catherine Dutu, vous ne me piquerez pas la bande dessinée. Vous êtes là pour une revue de presse internationale, vous le savez. Je vous salue d'ailleurs.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, vous examinez la guerre à Gaza et ses répercussions sur les campus universitaires, avec tout d'abord l'offensive terrestre de l'armée israélienne sur Rafah qui se prépare.
Elle est imminente, inévitable, s'accorde à dire le quotidien israélien Haaretz et le journal palestinien Al-Ayam. Des combats au sol se préparent alors que les frappes meurtrières continue ce matin sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le gouvernement israélien dit cibler 4 bataillons du Hamas regroupés à Rafah après avoir détruit une quinzaine d'autres bataillons des islamistes sur les 24 dont dispose le Hamas, précise l'armée israélienne et le quotidien Israël Hayom. Le journal palestinien Al-Ayam dénonce, lui, le nombre de civils tués depuis le début de la guerre. Plus de 34 000 Palestiniens sont morts, selon le Hamas. La majorité sont des femmes et des enfants, selon Al-Ayam, sans compter toutes celles et ceux qui sont toujours sous les décombres. Ce que confirme la chaîne qatari Al Jazeera, l'une des fenêtres du monde arabo-musulman sur la guerre à Gaza. L'un de ses journalistes s'est rendu dans l'hôpital spécialisé du Koweït à Rafah.
The vast majority of casualties are among civilians now. This is the area where the majority of Gaza's population have been told to stay and to
La grande majorité des blessés soignés ici sont des civils. Et c'est dans cette zone, à Rafah, que la majorité de la population de Gaza a été invitée à rester pour garantir sa propre sécurité. Mais nous pouvons voir des attaques israéliennes sur cette zone densément peuplée avant l'opération militaire prévue sur le terrain dans les prochains jours. Les Palestiniens n'ont plus d'endroit où aller, affirme Al Jazeera. L'offensive terrestre imminente sur Rafah suscite une vive opposition également de la part des alliés d'Israël, y compris des États-Unis, rappelle le Guardian à Londres. La Maison-Blanche a déjà alerté sur les pertes civiles qu'entraîneraient ces combats au sol dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne qui est passée de 250 000 habitants à plus d'un million en 6 mois de guerre. Une offensive terrestre perturberait également l'acheminement de l'aide humanitaire selon Washington. Et le Guardian montre ce matin des images satellites de rangs de tentes blanches dressées près de Khan Younes, à 5 km environ au nord de Rafah, censées accueillir les déplacés palestiniens après cette évacuation massive de la ville de Rafah. Israël a acheté 40 000 tentes pouvant accueillir chacune 10 à 12 personnes, a déjà indiqué le gouvernement israélien. Et le Guardian rappelle que l'Égypte refuse, elle, de voir les Gazaouis poussés de l'autre côté de la frontière, dans la péninsule du Sinaï, vers le territoire égyptien donc. Le Caire qui a mis en garde Israël contre toute offensive terrestre sur Rafah, synonyme selon l'Égypte de nouveaux massacres de masse et de destruction généralisée. Le Caire reçoit aujourd'hui des chefs militaires israéliens et du renseignement intérieur, note le journal Haaretz, pour discuter des opérations à venir sur Rafah et de la libération aussi des otages aux mains des islamistes du Hamas depuis plus de 6 mois maintenant.
On va en reparler dans quelques instants avec notre invité Philippe Sands, qui est notamment l'avocat de la Palestine. Catherine, à la une de la presse internationale, les opérations de l'armée israélienne de nouveau critiquées dans des campus universitaires.
Aux États-Unis, notamment, où la tension monte avec la police, non seulement sur la côte est, à Columbia, mais aussi dans le Midwest, dans le sud, au Texas, et puis sur la côte ouest, en Californie, énumèrent le Washington Post et le New York Times. Pour le magazine américain The Atlantic, un journaliste s'est rendu pendant 9 heures sur le campus de Columbia à New York. Il y a vu des manifestants pro-palestiniens kéfiés sur la tête ou autour du cou, constitués, je cite, une zone libérée en dressant des tentes. Un campement qui a, selon lui, des allures d'intifada et de Woodstock en même temps, avec par exemple des tentes d'hindous pour l'intifada, à côté de clubs de danse, de musiciens et de poètes. De petits drapeaux palestiniens brodés des noms de dirigeants tués à Gaza sont également plantés dans l'herbe, raconte The Atlantic. Les leaders s'efforcent d'insister sur le fait que, malgré tous les chants de la rivière à la mer et les promesses de revenir sur la création d'Israël en 1948, ils ne sont pas antisémites. Le journaliste de The Atlantic a pourtant entendu des étudiants de Columbia dénoncer l'intrusion de sionistes, en fait 3 autres étudiants juifs et pro-israéliens. Trop d'intimidation et de harcèlement pour la présidente de Columbia, Minouche Shafik, qui a conseillé, note The Hill, aux étudiants de suivre des cours en ligne, un peu comme pendant la pandémie. Et Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, est allé encore plus loin. Le virus de l'antisémitisme s'est propagé à d'autres campus, affirme Mike Johnson dans une allocution hier, huée, vous l'entendez, depuis l'université new-yorkaise de Columbia où il s'exprimait. L'administration de l'université est accusée par le ténor républicain d'avoir laissé les menaces, la peur et l'intimidation d'une foule violente l'emporter. Mike Johnson n'exclut pas de demander au Congrès l'intervention de la garde nationale, note le magazine Forbes. Par ailleurs, Al Jazeera note un mouvement similaire, alors d'une ampleur moindre certes, mais à Sciences Po, Paris. Et pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cité par le quotidien conservateur Makor Rishon, ces mouvements dans les universités rappellent l'Allemagne des années 30. Les protestations, dit-il, les protestations actuelles doivent servir de canaries dans la mine de charbon. De son côté, Alissa Salomon, qui se présente dans les colonnes du Guardian comme professeure juive de l'université de Columbia, alerte non seulement sur l'antisémitisme, mais sur les accusations spécieuses d'antisémitisme endémique pour faire avancer un programme anti-libéral de la droite américaine, comme nous l'avions évoqué déjà en décembre et janvier dernier avec la polémique autour de la présidente d'Harvard à l'époque, Claudine Gay.
Merci Catherine Dutu pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, on revient sur ces différents thèmes avec notre invité, l'avocat franco-britannique Philippe Sands.